Nous sommes dans l'époque où nous ne sommes pas. Nous sommes dans l'époque où nous ne sommes pas. Ça ne dépend pas, ça ne dépend pas, ça ne dépend pas. Nous avons vu les arrestations et les peines lourdes pour des personnes ayant participé à la manif parisienne du 14 juin contre la loi travail. Ce qu'on veut nous faire oublier avec cette terreur policière, c'est que ces personnes sont liées à une manière de vivre, à une manière de vivre, qui ne peut être réduite à un juge ou un procureur. C'est cela que l'on veut détruire, par la punition ou la peur de la punition. Des rencontres, des amitiés, un territoire réel ou imaginaire, des communs, des désaccords, des incompréhensions. C'est la même chose qu'un groupe anima à l'après-guerre, cherchant à allier la recherche artistique et l'exigence révolutionnaire. Serge Bernat est incarcéré 6 mois au fort de Cornouailles en Parisie au début 1953. International lettriste numéro 2. Manifeste du 14 février 1953. Plusieurs de nos camarades sont en prison pour vol. Nous élevons contre les peines infligées à des personnes qui ont pris conscience qu'il ne fallait absolument pas travailler. Les environs de Fresnes. Les environs de Fresnes. Avril 52, mars 53, se présente comme la participation à une nouvelle culture radiophonique, un anti-manifeste de l'esthétique lettriste. Poème de Guillaume-Henri Machinère et Paul-Henri Michoir, enregistré sur magnétophone portatif à fil d'acier. Guy Debord, Serge Bernat. 30 mai 52, manifestation contre la venue du général de l'OTAN, participation au sabotage d'un congrès de la jeune poésie. Juin 52, fonde l'International lettriste. 30 juin 52, projection de ce film, hurlement en faveur de Sade, interrompu au bout de 10 minutes. 13 octobre 52, projection du film dans son intégralité. 29 octobre, avec des amis, attaque une conférence de presse pour la promotion d'un film de Chaplin. 7 décembre, première conférence de l'International lettriste. Début 53, inscrit sur un mur de la rue de la Seine, ne travaillait jamais.
Les environs de Fresnes. Participation de Guy Ernest Debord à une nouvelle culture radiophonique. Document pour une propagande terroriste. L'enregistrement intitulé « Les environs de Fresnes » est dédié à Serge Bernat de l'International lettriste, actuellement détenu numéro 2797 au fort de Cormeilles en Parisie. On peut dire n'importe quoi ou dormir, les conséquences se ressemblent, mais le sommeil me plaît. Le bruit et le silence vont où ils veulent, les arts se font arbitrairement. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. Nous n'avons rien fait que nous promener et de temps en temps parler dans le noir. Nous passons le temps. On peut tout dire. Quand l'avant-garde abolit l'écran, après traité de barre et d'éternité, film lettriste, voici l'anticoncept de Gilles J. Volman, film qui s'intitule Expérimental. On le présentait lundi soir au Musée de l'Homme. Le principe de l'ouvrage, c'est simple, mais il fallait y penser. Vous supprimez l'image et vous gardez le son. Et quel son? C'est fini le temps des poètes, assure le réalisateur. Ricanement, étranglement, borborique, monomatopée, emprunt au cours des halles, défilé de voyelles, de pronoms, de chiffres, fragments de conjugaison. Je me mouche, tu te mouches, donc nous sommes deux, et autres traits d'esprit assez. Le rôle d'information de la grande presse, réponse au journaliste Robert Chazal, laudateur de Chaplin. Feu Chazal. Tu as été mal inspiré de nous insulter pour défendre la dernière superproduction des artistes associés qui, comme chacun sait, te paye grassement. Nous avons par hasard pris connaissance à Bruxelles de cette preuve écrite de ta connerie permanente et décidé de casser ce qui te tient lieu de gueule sitôt que nous serons rentrés en France. Tu paieras pour les autres, dont tu as porté à la plus faisandée perfection la lâcheté conformiste et l'admiration publicitaire. Faux témoin, indicateur et probablement pédéraste, tu as assez bavé. Nous débarrasserons la presse française d'une de ses plus représentatives ordures. À très bientôt. signé Jean-Louis Brogue et Ernest de Borges, Gilles Volma. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Monsieur J, d'où en sommes-nous avec le temps? Le pianiste est mort sans nos regrets. Voici les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre, comme il disait. Voici les petites filles dont nous nous sommes nourris sur la terre. Nageurs morts, suivrons-nous d'Ahan la croisette vers d'autres nébuleuses? Elle a tant d'amoureux qu'elle ne sait lequel prendre. Les environs de Fresnes, je ne connais pas de plus beau titre métaphysique. L'histoire du cinéma est pleine de morts d'une grande valeur marchande. Jean-Michel dit, nous avons peint avec de la buée sur les vitres. Après, on efface et on recommence. Nous sommes de très grands artistes. Février 1953, Serge Bernat nous écrit, fiche de police métaphysique. Debord, moraliste par nécessité, sachant ceci, honteux que la nécessité ait ce caractère ignoble de nécessaire. Intrigant, sinon il perd, faible, triste et prend peur devant les choses comme un enfant devant son cauchemar. Debord se lève le matin et se dit, aujourd'hui je ne me suiciderai pas. Cette communication de Serge Bernat a été censurée à cause de son manque de valeur apologétique. Octobre 1952, fini les pieds plats. Les feux de la rampe ont fait fondre le phare du soi-disant mime génial et l'on ne voit plus qu'un vieillard sinistre et intéressé. Go home, Mr. Chaplin. Les vérités qui n'amusent plus deviennent des mensonges. L'émission « Les environs de Fresnes » a été enregistrée à tout hasard en avril 1952 et en mars 1953. C'est la voix de Guy-Ernest Debord que vous entendez. Volman parlait. Bien sûr, la nuit tu rêves si tu pouvais toujours dormir, mais la vie menace. À chaque angle, il y a des flics et des indiques dans les bistrots. Les filles de ton âge sont marquées par la jeunesse. Ne quittez pas l'écoute. Vous allez entendre dans quelques instants un exposé clair de l'esthétique lettriste. Place Voltaire, place du commerce, nous connaissons tous les ponts, sans laisser de traces. Est-ce que vous connaissez la Hongrie? Je vous parle. En novembre 1952, Guy-Ernest Debord donne à son film cette préface. Notice pour la Fédération française des ciné-clubs. Éclaircissement sur le film Hurlement en faveur de Sade. Le spectacle est permanent. L'importance de l'esthétique fait encore après boire un assez bon sujet de plaisanterie. Nous sommes sortis du cinéma. Le scandale n'est que trop légitime. Jamais je ne donnerai d'explication. Maintenant, tu es toute seule avec nos secrets. À l'origine d'une beauté nouvelle. Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, tous les arts sont des jeux médiocres et qui ne changent rien. Son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Les conditions spécifiques du cinéma permettaient d'interrompre l'anecdote par des masses de silence vide. Tous les parfums de l'Arabie, l'aube de Vilaine, à l'origine d'une beauté nouvelle. Mais il n'en sera plus question. Tout cela n'était pas vraiment intéressant. Il s'agit de se perdre. Avril 1952, au Festival de Cannes, les lettristes mangent.
Ça va être tout ça?
Je trouve que dans la
cour. Il n'y a pas de sucre.
Voilà. Moi j'ai un sucre. Merde, il n'y a pas de sucre.
Il y a une petite sucre. J'avais entendu ça.
Tu veux pas manger sans sucre, ça?
Si, mais non, je peux pas.
Tu veux pas manger la confiture dedans?
Ah oui, c'est pas la confiture.
Oui, c'est très bon.
Bien sûr.
Ah oui, d'accord, c'est très bon.
Les intellectuels, je sais pas. Alors le confiture et le gorgon, je vous savais pas.
Pourquoi moi je mettrais de la confiture là-dedans alors que là, sans sucre. Il suffit d'impressionner le monde, politique d'intimidation.
Attendez. Quand j'ai fondu, c'est bon.
De cette manière, il ne faudra pas.
Ah, non.
Le pain est dur, le pain est chaud. Le pain est global.
Le repas, c'est lui. Et là, on fait ça.
Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Au bar du génie à la Bastille, à la maison hostie, les lettristes refusent a priori et sans conversation possible toutes les raisons de vivre ou de mourir, de boire ou de ne pas boire qu'on peut leur avancer. Les jeux que nous avons aimés, les mouvements de la parole, vont mourir dans leur dernier prestige. En avril 1952, Serge Bernat et Guy-Ernest Debord se promènent parmi les débris de l'ancienne poésie, en détraquent les mécanismes pour qu'elles ne soient plus que les réponses ou les demandes également dénuées d'importance du dernier dialogue acceptable.
Inert, ta avis des voies lactées. Ta viva Ovid. Ta vie déteste. Et le rêve de ta vie que le vide. Voie lactée aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses. Mais le vide est venu à ta vie. Nageurs morts, suivrons-nous Dahan, ton cours vers d'autres nébuleuses. Le voile énorme ne l'a pas repoussé. Il n'a pas pu repousser le voile énorme, il n'a pas pu. Regret des yeux de la putain est belle comme une panthère, est belle comme une panthère, est belle comme une panthère. À 10 ans, il avait 60 ans. Ses parents lui parurent schienen seine Eltern als wie des enfants à 5 ans. Il se perdait dans la nuit du temps. Amour, beau baiser florentin avait une saveur amère qui a rebuté nos destins. Puis, il s'est oublié dans une fourmi. Il s'est oublié dans une feuille, il s'est oublié dans l'ensevelissement de l'enfance. Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes. Tahavi n'a pas trouvé son père. 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 Père dans les et larmes des hommes.
Sanglants, et nos baisers mordus sanglants, et nos baisers mordus sanglants, faisaient pleurer nos fées marraines.
N'a pas accepté ta vie, n'a pas accepté ta vie, ayant reçu, n'a pas gardé par la porte, par la fenêtre, ta vie par la porte, par la fenêtre, a rejeté, il a vomi.
Mais en vérité, je l'attends avec mon cœur, avec mon âme.
Par la volonté appuyée sur le souffle, par la pensée sans souffle, par son démon, ta vie a rejeté.
Et sur le pont des revient-t'en, et sur le pont des revient-t'en, si jamais revient cette femme, je lui dirai je suis content.
Ta vie a rejeté.
De Paul Henri Michuard, l'amoureuse repos dans le malheur.
Elle est debout,
le malheur,
sur mes paupières,
mon grand laboureur.
Et ses cheveux,
le malheur,
sont dans les miens.
Assieds-toi.
Elle a la forme,
repose-toi,
de mes mains.
Reposons-nous un peu, toi et moi.
Elle a la couleur,
repose,
de mes yeux.
Tu me trouves.
Elle s'engloutit.
Tu m'éprouves.
Dans mon ombre.
Tu me le prouves.
comme une pierre.
Je suis ta ruine.
Sur le ciel.
Mon grand théâtre.
Elle a toujours.
Mon art.
Les yeux ouverts.
Mon âtre.
Et ne me laisse pas.
Ma cave d'or.
Dormir.
Mon avenir.
Ses rêves.
Ma vraie mère.
En pleine lumière.
Mon horizon.
Font s'évaporer.
Dans ta lumière.
Les soleils.
Dans ton ampleur.
Me font rire.
Dans ton horreur.
Pleurer et rire.
Je m'abandonne.
Parler.
Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Simplement des voyageurs pressés entre deux gares. Le pont Sully, l'ancienne guide de la 141e Paris,
Paul-Henri Michuard, au cœur de mon amour dans la nuit. Dans la nuit.
Un bel oiseau.
Dans la nuit.
Me montre la lumière.
Je me suis uni à la nuit.
Elle est dans ses yeux.
À la nuit sans limite.
Bien en vue.
À la nuit.
Il chante.
Ce sera pour une autre planète.
Au milieu du soleil.
Mienne.
Les yeux des animaux chanteurs.
Nuit.
Et leur chant.
Nuit de naissance.
De colère ou d'ennui.
Qui m'emplit de mon cri.
M'ont interdit.
De mes épis.
De sortir de ce lit.
Toi qui m'envahis.
J'y passerai ma vie.
Qui fait houle, houle.
L'aube dans des pays.
Qui fait houle tout autour.
Sans grâce.
Et fume.
Prend l'apparence.
Effort dense.
De l'oubli.
Mugit.
Et qu'une femme émue s'endorme.
Est la nuit.
Allô.
Nuit qui gît.
La tête la première.
Une nuit implacable.
Sa chute l'illumine.
Et sa fanfare. Et sa plage.
Vous connaissez.
Sa plage en haut.
La forme de sa tête.
Sa plage partout.
Ici tout s'obscurcit.
Sa plage boit.
Le paysage se complète.
Son poids est roi et tout ploie sous lui.
Sang ou joue.
Sous lui.
Les masses diminuent.
Sous lui. Des nues.
Et coule dans mon cœur.
Sous lui.
Avec le sommeil.
Sous la nuit.
Et qui donc veut.
La nuit.
Me prendre le cœur.
Sous lui. Évident que ce qui précède.
Je l'ai vu couvert d'une cuirasse couverte, c'est le mot, c'était le ciel pur.
Alors, mon cher, il faut un titre, vite, un titre.
Couplet de la rue du tombeau.
Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire.
Depuis qu'André Flattard l'a quitté.
On veut de nouveaux sons, de nouveaux sons, de nouveaux sons.
Quand il buvait un verre.
On veut des consonnes sans voyelles.
Ces ruines sont situées sur les bords d'un fleuve sinueux.
Parfaitement, des consonnes qui pètent sourdement.
Une à une agonie harmonieuse et multiple.
Imitez le son de la toupie.
Clopin clopant s'en allait des aveugles.
Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne.
Heureux s'il suffisait pour se faire aimer d'elle.
Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité.
Un peu profond ruisseau calomnier la mort.
De divers pélabios rendrait aussi vos discours claironnants.
Elle défunte nue en le miroir encore.
La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer.
Le noir roc courroucé. Que la bise le roule.
Si tu es un homme, tu m'accompagneras ce soir.
À l'autre, au sein brûlé d'une antique amazone.
J'aurai dégusté lentement et tout seul pendant de longues soirées le toquet.
Mal tu par l'encre même en sanglots sibyllins.
que de cœur dans Orcenise les gardes riaient. Vanifier la route grise, l'amour grise au charretier.
Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche.
Sur le boulevard de Grenelle, les ouvriers, les patrons, arbre de mai,
roulent dans cet ennui des feux vils pour témoins.
L'amour est mort entre tripes. Merde. Ah, merde. L'amour est mort entre tailleurs. Qu'est-ce que c'est? Non, mais l'être. L'amour est mort entre. Oh, puis non, je renonce. Vas-y.
Le sépulcre de désaveu.
J'ai les yeux d'un vrai veau marin.
Sous un marbre lourd qu'elle isole, ne s'allume pas d'autre feu que la fulgurante console.
Édité chez Gallimard, 1945.
Le cri des gloires qui l'étouffe.
C'est la fête de Saint Olaf.
Moi, j'ai ta chevelure nue pour enfouir mes yeux contents.
Gaspard, je songe à Gaspard. Ce n'est certainement pas son vrai nom.
Dans l'éclaboussement des chutes impossibles.
Mais j'avais la conscience des éternités différentes de l'homme et de la femme.
Montez les marches de la brume, nous approchons.
Deux animaux dissemblables. Ennemis s'aimaient à couteau tiré.
Pour qu'un seul baiser la retienne.
Elle tenait à la main un fourreau.
Fuit une foule de grains, fuit la flamme et la fraîcheur, plus fort que le ciel lointain.
À lui, il s'était vu légué par Dieu un poignard affûté.
Que la beauté de l'homme est plus grande que ton espoir est vivant.
Toujours nous irons plus loin sans avancer jamais.
Que voulez-vous, la nuit était tombée.
Où est le perdu, où est la vie pour trouver la victoire.
Et par le pouvoir d'un mot.
Prends-moi.
Noué, rouillé comme un falot et caotant comme un éclair, le coin réserve sa saveur.
L'on a dit que Serge Bernin était une crapule, une crapule, une gouape, gouape.
En quête d'une végétation nouvelle. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leur porte. Février 1953, manifeste pour l'international lettriste. La provocation lettriste sert toujours à passer le temps. La pensée révolutionnaire n'est pas ailleurs. Nous poursuivons notre petit tapage dans l'au-delà restreint de la littérature et faute de mieux. C'est naturellement pour nous manifester que nous écrivons des manifestes. La désinvolture est une bien belle chose, mais nos désirs étaient périssables et décevants. La jeunesse est systématique, comme on dit. Les semaines se propagent en ligne droite. Nos rencontres sont au hasard et nos contacts précaires s'égarent derrière la défense fragile des mots. La terre tourne comme si de rien n'était. Pour tout dire, la condition humaine ne nous plaît pas. Nous avons congédié Isou, qui croyait à l'utilité de laisser des traces. Tout ce qui maintient quelque chose contribue au travail de la police, car nous savons que toutes les idées ou les conduites qui existent déjà sont insuffisantes. La société actuelle se divise donc seulement en lettristes et en indicateurs, dont André Breton est le plus notoire. Il n'y a pas de nihilistes, il n'y a que des impuissants. Presque tout nous est interdit. Le détournement du mineur et l'usage des stupéfiants sont poursuivis comme, plus généralement, tous nos gestes pour dépasser le vide. Plusieurs de nos camarades sont en prison pour vol. Nous nous élevons contre les peines infligées à des personnes qui ont pris conscience qu'il ne fallait absolument pas travailler. Nous refusons la discussion. Les rapports humains doivent avoir la passion pour fondement, sinon la terreur. Signé Sarah Aboif, Serge Bernat, Pierre-Joël Berlet, Jean-Louis Brault, René Lébé, Midou Daou,
Guy Ernest de Bord, Linda Fried, Françoise Lejar, Jean-Michel Mention, Eliane Papaye, Gilles J. Volman. Mars 1953, fait divers. À l'ombre de Saint-Germain-des-Prés, un groupe de jeunes gens s'adonnait à la marijuana. Le fournisseur de la drogue et ses clients sont arrêtés. Cet accord que les délégués à l'ONU tentent péniblement de faire régner entre les divers peuples du monde, il semble vraiment qu'il avait été réalisé sans difficulté depuis quelque temps par une dizaine de jeunes gens appartenant aux nationalités les plus éloignées. On les voyait au Mabillon, au Saint-Claude ou dans les bars de la rue du Four, et leur comportement à certaines heures donna à penser aux inspecteurs Dupont et Fèvre de la brigade mondaine qu'ils s'adonnaient sans doute aux stupéfiants. Une bagarre qui éclata l'autre nuit au Mabillon et à laquelle prit part une des jeunes femmes du groupe donna aux policiers l'occasion d'intervenir et d'enquêter sur leur existence. Le commissaire principal Arnal et l'officier de police Montsarrat devaient en fin de compte établir ceci. Ces jeunes gens et jeunes femmes, au nombre d'une dizaine, se réunissaient une ou deux fois par semaine chez l'un d'eux, Guénard Borino, 29 ans, né à Maracaibo, Venezuela, peintre abstrait qui habite rue de Seine. Venait là, Luis Moncana, 22 ans, né à Mexico, écrivain habitant rue Bonaparte. Carlos de Villodres, 28 ans, né à Tenerife, étudiant en philosophie, demeurant rue de la Grande Truanderie. Aïcha Khalif, 21 ans, nord-africaine, sans domicile fixe ni profession définie. Carmen Robetta, 22 ans, née à Madrid, étudiante, demeurant à Levallois. Edith Abadi, 18 ans, étudiante, la seule parisienne du groupe. Tout en devisant d'art ou d'autres sujets, il fumait des cigarettes de marijuana, nom donné en Amérique à ce produit tiré du cannabis indica que l'on nomme kif en Afrique du Nord et hashish dans le Proche-Orient. La drogue leur était fournie par un certain Pierre Feuillette, 26 ans, originaire de Rabat, et qui, trois jours avant l'arrestation générale, avait ramené du Maroc une livre du précieux produit qu'il revendait à raison de 100 francs. Le fournisseur de la drogue et ses clients ont été mis à la disposition du juge d'instruction Goletti, qui décidera de leur sort.
Thank you. le casseur dispose à l'existence. L'émeute dispose aussi à tuer l'ennui. Elle dispose à l'existence car, momentanément, elle montre la déroute du pouvoir. On le sait, ce dernier saura se reprendre avec toute sa radicalité. Le casseur est d'ailleurs lucide. Il ne s'attend pas à ce que son geste transforme durablement le cours des choses. Il manifeste plutôt avec énergie sa passion du réel, détruire les symboles du pouvoir pour atteindre le noyau dur du réel. L'envie de casser est une façon politique de reprendre prise avec le réel, c'est retrouver le réel du monde. Celui-ci n'est pas anéanti, il est marqué, scarifié, abîmé. La colère est ancrée sur les vitrines éventrées. C'est là peut-être la forme de jouissance pure où l'incarnation de la négativité du monde est en branle. Les lamentations des préfets, maires, policiers ajoutent encore davantage à cette joie d'inverser les registres de la puissance. Enfin, ce que le casseur a également gagné, c'est l'impossibilité de l'usage des instruments du capitalisme. Distributeurs de billets hors service, agences bancaires fermées, parfois pendant plusieurs semaines, alors qu'on s'est habitué à être spectateur du monde, à ne pas comprendre grand-chose du monde qui est face à nous, le casseur clarifie l'espace des possibles. Face à l'illisibilité du monde, il en offre une version épurée. L'espace public est enfin débarrassé de l'arrogance de ces institutions qui arboraient fièrement leur puissance. L'espace public s'offre alors à un autre regard, celui des graphes. Ces derniers jours, une promenade dans les rues de Rennes, de Paris, est devenue des plus délicieuses. Il est possible de s'y arrêter, d'attendre, de se reposer, d'errer, de contempler et de méditer la consistance d'un monde que les manifestants dessinent du bout de leur bombe.
Parallèlement à la manifestation contre la loi travail, le 14 dernier à Paris, une bande de collégiens a tenté de libérer des enfants piégés dans un hôpital. Ce geste, peu compris et malgré son échec, a été entendu, très bien entendu dans l'hôpital par certains enfants. Nous vous proposons de lire le témoignage d'un de ces enfants, reçu hier après-midi dans la boîte aux lettres de la Clé des Ondes.
Après-midi d'une chambre de l'hôpital Necker. J'étais au moins au cinquième épisode des Simpsons. Les bruits de la rue couvrent la voix d'Homer, des cris du verre qui tombe. Cela me changeait des sons de l'hôpital dont j'ai pris l'habitude. L'aspirateur géant passant le matin, conduit par ce que j'imagine facilement un robot. Les rapides toc-toc à la porte où j'espère une visite, mais c'est plutôt un thermomètre dans les fesses ou me remettre une nouvelle perf. Ou déposer un plateau livide où on y a mis des formes délavées dans des assiettes en plastique sous cellophane qu'ils appellent repas. Ils ont pourtant essayé de mettre des couleurs au mur, déposer des jeux, ramener des clowns qui, à leur manière, te mettent un nouveau miroir devant la gueule, t'es qu'un nouveau patient qu'il faut absolument sauver. Tout est permis. Les infirmières et tout le monde qui me parlent très gentiment, mais comme un être dénué de toute faculté de jugement. Les laboratoires qui se tirent les cheveux à coups de pot de vin et de vacances à Miami, tout frais payés aux médecins pour qu'on t'injecte leurs trucs. J'ai pas le choix d'être ici. Les couloirs de l'hôpital comme sorte de perspective. Je les connais tous, par de longues marches pas répétées. Je mets souvent mes mains sur les immenses baies vitrées qui, malgré leur transparence, m'empêchent de me jeter au dehors. Je me vois quand même un peu dehors. Quand j'ai entendu les bruits, je suis montée sur le lit, puis sauter sur le meuble à pieds joints devant la fenêtre, autrefois faite pour déposer des fleurs désormais interdites. Je vois alors une scène que je ne connaissais que par la télé. Des gens habillés en robots se déplaçant avec des casques, des boucliers en plastique. Certains sont armés de genre de fusils. Ils semblent gauches. Les coups de bâton pleuvent en s'approchant du groupe de super-héros. Eux sont plutôt vêtus de noir, mais rien à voir avec le groupe robot. Aucun n'est pareil. Ils sortent des lunettes, des masques de toutes sortes. Joyeux, ils se joignent à plusieurs en faisant une percée en direction des robots. Les robots reçoivent des pierres sans vraiment bouger. Ils ont l'air d'accepter leur sort. Sauf un chef donne un ordre, ils répondent. Continue des chants de super-héros, des sauts, des rires, des retraits. L'un tombe, 10 à court, l'aide, check les blessures. Ça me paraît très violent. Tout ça va très vite, ça fume. L'un avec un marteau casse une vitre. Un autre a l'air de lui indiquer que c'est un hôpital, de la peinture. En fait, je me sens pas trop rassurée et en même temps, cela me remémore la peur que j'ai ressentie quand j'ai essayé de m'échapper. C'est dur à expliquer, mais il y avait comme un air agréable aussi. Et le nombre de fois où j'ai rêvé que ces vitres tristes s'évaporent. Et là, comme je l'avais déjà fait pour le mur de l'école, j'ai pu me tirer par la grande porte, cette fois-ci, et nous étions 1 million d'enfants à retourner la ville.
Je crois qu'on a une anecdote prise sur le vif, qu'on va écouter tout de suite.
Ouais, salut, c'est Marguerite. Je voulais vous raconter une autre petite histoire qui m'est revenue pendant l'interview de tout à l'heure. Et du coup, en gros, c'est pour dire que ça s'est pas fini là où on a arrêté le récit, quoi. Après cette manif qui finit donc à Invalide, avec une pote que j'appellerai Rambo pour l'occasion, On se dit, c'est pas fini quoi, faut que ça continue, là on est des milliers à être montés à Paris, où est-ce qu'on va quoi, et là on pense à la place de la République qui a vu quelques nuits s'agiter ces derniers mois dans le mouvement, on a vu ça sur internet, et du coup on va à place de la République, où se tient encore Nuit Debout, en arrivant on voit qu'il y a encore quelques bâches qui traînent par là, et plein de gens qui arrivent de la manif, qui arrivent de partout. Et on traîne là, quoi. On se dit juste qu'on va traîner là jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, même si on est blessé. La pote, là, je l'appelle Rambo parce qu'elle a continué alors qu'elle s'était pris un coup de grenade dans les genoux, mais on s'en foutait, on voulait continuer à marcher, à courir. Et du coup, on attend. Et là, tout d'un coup, on voit une bagnole de la mairie de Paris qui débarque, une dizaine de types armés qu'en sortent, des contrôleurs avec des matraques et des gazeuses, et qui rentrent dans un escalier de métro, quoi. Et du coup, bah, y a plein de gens qui descendent, on descend aussi, on va voir. Et en fait, il y avait un type en train de se faire contrôler. Et là, du coup, ça gueule, tout le monde déteste les contrôleurs, ça commence à s'approcher. Finalement, les contrôleurs lâchent le type. Du coup, ils sont bien menaçants avec leur matraque et leur grosse gazeuse et leur grosse couille. Et du coup, on remonte avec le mec qui a été libéré sur le moment. Là, les gens sont assez énervés, quoi. Il y a un gros tas de poubelles qui traînent à côté. Ça commence à les jeter à côté de la voiture, sur la voiture. Puis la dizaine de contrôleurs remonte, très, très énervés de se faire attaquer comme ça leur voiture à coups de poubelle. Et je pense qu'ils ont pas bien compris où est-ce qu'ils ont mis les pieds, quoi. Ils pensaient être dans l'espace de toujours, où la loi règne, etc. Mais là, non, c'était l'espace du mouvement qui était là, qui était à République. Du coup, bah, ils se prennent eux aussi des poubelles dans la gueule, ils se prennent quelques canettes, et ils doivent retourner dans le souterrain d'où ils viennent, là, de métro, et voilà, on les aura plus revus après. Et après cet épisode-là, où bon, ils ont donné un petit coup de gazeuse dans le vide comme ça, bah, les gens se rattaquent de plus belle à la voiture, au bout d'un moment, il y a une vitre pétée, et puis au bout d'un moment, elle prend feu. Et ça fait le plus beau feu qu'on ait vu depuis un sacré moment. Et ça montait au-dessus des immeubles, c'était complètement dingue. On se disait à pas mal qu'on était en train de faire des signaux de fumée dans tout Paris pour que tout le monde arrive à Place de la République, parce que c'est ici que ça se passait, quoi. Et du coup, en effet, il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Les gens veulent partir en manif sauvage. Il y a une espèce de tension qui se met entre on attend plus de monde ou on part tout de suite parce que les flics vont arriver. Et puis là, hop, on part. On part à 500 à peu près de la place, dans une rue, n'importe laquelle, juste là où sont pas les flics, parce que bon, les flics sont un peu arrivés, au bout d'un moment il y avait quand même une voiture de contrôleur qui brûlait au milieu de la place. Et bon, les flics nous coupent, on se retrouve à être quoi, 300 devant, les autres sont restés bloqués derrière, je sais pas ce qu'ils ont fait après. Et là, on déambule dans les rues de Paris, ça pète tout ce qui est désagréable aux yeux, tout ce qui est banque, etc. Et la dernière petite anecdote, c'est à un moment, on passe devant un DIA, là les gens ils s'acharnent sur la vitre jusqu'à ce qu'elle tombe. Et là il y a un type qui ressort et qui, avec un énorme panier rempli de Twix, et qu'on jette dans la foule, je peux dire que c'est le meilleur Twix que j'ai jamais mangé de ma vie. Voilà.
Minouche. Minouche. J'aimerais que tu me donnes toi ton point de vue sur Paris, parce que bon, là j'ai entendu bien des choses, mais toi t'en dis quoi ?
Du coup, moi, le point de vue que je vais donner sur Paris, c'est un point de vue qui a été écrit par Aragon, Perret et qui s'est accompagné de photos de Man Ray en 1929. Accroche un lampion à ta bite et va. Mes bandes, que la tour Eiffel étonnée se cache dans le cul du Trocadéro, que la Seine excitée envahisse la rue Trousse Nonain, que les poteaux télégraphiques déchargent leurs dépêches dans la bouche d'un égout. Que la toile de Jouy gise, épuisée, sur les matelas éventrés. Et ne t'arrête pas ainsi, bande nom de Dieu. Que la boulangère remplace le boulanger par son pain et que son pain viole toutes les vierges de la ville. Bande encore, défonce les tabernacles, fous la guillotine afin qu'elle décapite le bourreau. Bande toujours, toujours plus. Et que ta queue gronde comme un torrent et perce Dieu par tous les ports. Alors tu iras sur les boulevards, précédée par la renommée de ton vie, et toutes rouges, elles te jetteront des confettis blancs. Le leur.
Merci, Minouche. Potlatch revient dans 2 semaines. Je ne sais pas combien on sera, donc j'ai pas envie de faire le calcul tout de suite. On va demander à un ordinateur de nous dire... c'est quoi, c'est le 3 juillet ? Oui, voilà. Donc le dimanche 3 juillet à 16h30, Podcast revient, 90.1 sur la clé des ondes. L'émission sera podcastée, peut-être, sur le blog de l'émission, radiopodcast.over-blog.com, il me semble. On a changé, ce ne sera pas nos blogs. Pour nous écrire, vous pouvez nous écrire à podcast@netcourrier.com. On se retrouve dans 2 semaines. Et on termine avec le dernier morceau pour l'émission.
Take a breath. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my stare, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right.